Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imitait son silence.
Bonjour au Théâtre de la Gamelle. Aujourd'hui, c'est Hugues au micro qui assisté de Gaspard. Bonjour Gaspard.
Bonjour.
On va vous lire donc aujourd'hui Les Deux du Balcon de Francis Mas, qui n'est pas proprement un texte de théâtre, mais une bande dessinée qui a été publiée en feuilleton dans le magazine À Suivre au début des années 80. Elle met en scène deux personnages qui tiennent autant des Bouvard et Pécuchet de Flaubert que des Vladimir et Estragon de Beckett. Ils revisitent les grandes découvertes scientifiques du haut de leur balcon, dans un décor évoquant une Venise qui aurait été relookée par les Monty Python. Donc le décor, vous ne le verrez pas, vous n'aurez que le texte, mais je pense que justement le texte tient vraiment la barre. Le travail que donc, je me suis proposé de faire, c'est d'adapter ce texte en théâtre. Donc c'est une première tentative, voir comment le texte passe juste avec la force des mots. À propos des Monty Python, justement, cette bande dessinée, qui est un peu oubliée par ailleurs, avait impressionné à l'époque Terry Gilliam, qui a déclaré dans une interview qu'il aimerait bien faire un film avec Mas, son auteur. Et Art Spiegelman, l'auteur de Maus, plaçait cette bande dessinée aussi parmi son panthéon personnel. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
El Niño et le Rhino.
On a repéré El Niño qui croisait au large. Il ne devrait plus bien tarder.
Déjà ?
Quoi déjà ? Il n'y a rien de plus normal. Ça va être la saison d'El Niño, voilà tout.
Encore ?
Quoi encore ? Il y a des saisons tous les ans, c'est les mêmes.
Toujours ?
Quoi toujours ? Ben non, justement. La saison d'El Niño, c'est sa saison. C'est lui qui la décide tous les 5 ans.
Tout seul ?
Évidemment, tout seul. Il en fait bien ce qu'il en veut de sa saison. Il est adulte. Bien que ce ne soit encore qu'un enfant.
Et pourquoi est-elle à ce Niño cette saison ? Vous avez vu ce qu'il en a fait la dernière fois de sa saison. Vous trouvez ça adulte et responsable, vous ?
Ah, vous faites allusion à ce désert dont il nous a gratifié. Bon, vous n'aimez donc pas le charme jaunasse de ces dunes ?
Ben voyons. Toutes nos armoires, tous nos placards, nos frigidaires, nos baignoires, nos bibliothèques, nos matelas et nos oreillers sont déjà farcis et rembourrés de ces foutues dunes. Et regardez-moi un peu tout ce qui reste ! Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en foutre ?
Vous savez, il y a dunes et dunes. Nous n'avons pas à nous plaindre, celles-ci ne sont qu'en sable. On aurait pu tomber plus mal. Mais c'est vrai que l'autre fois, El Niño nous a un peu pris de court. Mais cette année, je veille au grain.
Vous voulez dire que c'est vous l'observateur officiel de la météo ?
Non seulement ça, mais j'ai aussi carte blanche pour prendre les mesures préventives que je déduirai de mes observations. J'ai déjà prévu avec succès une gelée blanche, une noire foncée, une vert rabattu et une autre gorge de pigeon roucoulou. Autant vous dire qu'après ça, j'ai la confiance absolue du gouvernement.
Ah bon ? J'ignorais ces prestigieux talents d'oracle. Mais si c'est déjà très appréciable de deviner les gelées bleues, vertes ou roses, c'est une toute autre affaire que de prévoir les frasques d'El Niño. Il faut déjà être mage majuscule.
Ça n'a rien d'une science occulte. C'est une discipline géophysique très complexe où il faut avant tout être très attentif aux signes précurseurs des phénomènes météo que l'on est chargé de prévoir. Le pronostic météorologique à haute fiabilité est un des enjeux majeurs de nos sociétés avancées.
Foutaise que ces théories modernes. Le temps, ça a toujours existé. Et on est bien toujours là. Ça prouve bien qu'on en connaissait autant dans l'ancien temps sur le mauvais temps. Et moi, je dis que pour prévoir le temps, il n'y a rien de mieux que de savoir bien regarder les animaux.
Eh bien, démontrez-le. Moi, je ne me demande pas mieux que de devenir un disciple de votre obscurantisme crasse. Un scientifique n'a jamais trop de cordes à son arc. Tenez, par exemple, ce rhinocéros qui passe là, que pourriez-vous en tirer comme renseignement intéressant concernant la météo ?
Vous n'avez que ça comme animaux ? Vous n'auriez pas plutôt des cigognes ?
Si, nous avons des autruches. C'est ce que nous faisons de mieux en matière de cigognes. Mais prenez ce qu'on vous donne. Bon, alors ?
Bon, je le vois, il pénètre dans une maison, sans s'être passé la patte derrière l'oreille.
Oui, pas mal. Je suppose que vous en déduisez que le temps va rester au sec. Bien, ensuite ?
Maintenant, il a traversé la rue par l'intérieur et il ressort dehors. Je constate qu'il a conservé toutes ses peaux. L'hiver sera donc rude, sans doute.
Eh, pas mal du tout. Essayez d'affiner encore votre remarquable analyse.
Eh bien, il a glané quelques menus affutiaux et bibelots personnels lors de son passage à l'intérieur des maisons de la rue.
Ah, intéressant. Quel bibelot ?
Eh, mais oui ! C'est l'illustration de notre querelle des anciens et des modernes. Et le rhino nous donne la bonne réponse. C'est moi qui ai raison, regardez. La grenouille sur l'échelle est accrochée à la grande corne et le baromètre à la petite corne. Donc c'est moi qui ai raison. Ouais ! J'ai gagné.
Allons, allons. Pas de triomphalisme intempestif. S'il vous plaît, du calme. Bravo, quand même. Donc, puisque la grenouille que vous sponsorisez a gagné l'étape, racontez-moi un peu quel temps vous en déduisez pour les mois qui viennent.
Mais c'est évident, enfin. Vous connaissez bien le dicton. Si la rêche grenouille, corne au rhino gratouille, qu'il sèche ou mouille, virera tout à ratatouille. Voilà, c'est simple. On ne peut pas faire plus clair. Ça veut dire qu'il va faire les 36 temps, c'est-à-dire en gros, un peu de tout, de l'imprévu, de l'inattendu, de l'impromptu, du déjà vu et du n'en jetez plus. Bref, rien de bien alarmant, en somme.
Bien, vous n'avez oublié que de citer le vieil adage « Les mouches flatulent, c'est la saison des campanules ». Mais je vous remercie d'avoir su me préserver de cette vulgarité qui aurait pourtant bien consolidé votre exposé. Bon, maintenant, à mon tour, voilà ce que j'ai relevé. Le rhino arrive de la mer. L'absence de traces de phytoplancton sur son épiderme m'indique la disparition temporaire de l'upwelling local et donc une retombée des alizés sud-est indiquant que la circulation de Valcaire est suspendue. Il y a donc une forte oscillation sud ainsi que des vents d'ouest de force 6 à 10 sur le Pacifique accentuant sa pente de plus de 15 cm vers l'est et ramenant sa thermocline à l'horizontale. C'est pourquoi l'upwelling est noyé. Ces excès d'eau plus chaudes de 7 degrés font dévier le jet stream et déplacer les zones de haute et basse pression atlantique dans des rapports dont je vous fais grâce du détail.
Très émouvant. Mais qu'avez-vous prévu au juste pour nous préserver des dégâts ?
Rassurez-vous, rien de bien compliqué. J'ai un paquet de biscottes là que je vais écraser en menu chapelure.
Ah oui, c'est ingénieux. Mais je ne vois pas en quoi vos biscottes vont remettre le jet stream à sa place.
Ah, vous et vos petits calculs à courte vue. Vous ne voyez donc pas que je gère notre avenir sur la par une politique de prévention à court terme, à long terme exactement.
Ah bon ? Espérons donc que nous resterons en bon terme avec le court terme d'El Niño.
Cette année-là, El Niño fit preuve d'un manque d'imagination tout à son honneur. Il n'y a eu que des inondations catastrophiques qui ne durèrent que quelques mois. Puis on mit la ville à sécher et tout rentra dans l'ordre.
Excusez-moi. J'ai pas bien saisi vos méthodes de prévention avec les biscottes. Pas très opérationnelles, on dirait.
Ah, j'y viens. Regardez un peu là-bas. On n'est pas les seuls à avoir été victimes de ces inondations. Le rhino aussi. J'ai versé mes biscottes écrasées dans ces morceaux de carapace qu'il a mis à sécher. Quand il va les renfiler, il n'a pas fini de se gratter. Ne vous en faites pas. Il y réfléchira à deux fois avant de revenir nous reproposer un temps pareil.
Ah, chapeau ! Je vois que les acquis de la recherche fondamentale vous ont enfin permis d'optimiser les techniques de prévention. le ronfleur paradoxal.
Oh, oh, vous pourriez pas la mettre un peu au garage, votre locomotive ?
Quoi ? Quoi ?
Vous ronflez comme un congrès de locomotives enrhumées et ça commence à bien faire.
Moi, je ronfle ? Ça alors, quel culot ! D'abord, quand je ronfle, j'imite uniquement la scie à bûche, jamais la locomotive.
Dites tout de suite que c'est moi. Je vous signale que moi, je ne dors qu'en émettant des zzzz bien propres, bien calibrés et parfaitement standards. Regardez. Zzzz, c'est tout de même une autre classe.
Très joli. On voit que vous avez bénéficié d'un stage de formation accélérée pour adultes en figuration narrative.
Vous continuez à scier votre bûche comme un vulgaire dessin de blague. Si on m'a payé ce stage, c'est bien que je le méritais.
Dites. Ça serait pas plutôt lui, notre locomotive mystérieuse ?
En effet. Voilà un joli spécimen en phase de sommeil lent profond, ou phase 4, agrémenté d'un léger somnambulisme. Oh, oh, étonnant, regardez, notre ronfleur est en train de passer de la phase 4 à la phase 5, le sommeil paradoxal.
Déjà ?
Suivez bien les mouvements derrière les paupières. Regardez, l'agitation oculaire commence, la fréquence respiratoire devient irrégulière, ainsi que le rythme cardiaque. Et des contractions musculaires brèves commencent.
Ah bon ? Moi, je vois bien un truc qui se contracte, mais je ne savais pas que c'était un muscle. Je pensais que c'était un os.
En effet, l'érection pénienne est une caractéristique du sommeil paradoxal. Chez la femme, ce sont les mamelons des seins qui profitent de cette phase.
Ah, tant mieux. Le paradoxe ne vient donc pas de là. Mais à part ça, quel est donc l'intérêt de ce sommeil paradoxal, sinon celui d'embrayer votre moulin à parlotte et de m'empêcher de dormir ?
C'est surtout le support principal du rêve qui va se former par l'activation du système ponto-genouillé-occipital qui, lui, va stimuler les nerfs oculomoteurs et produire des mouvements oculaires rapides.
Un peu comme le système pierre-à-tonné déclenche des mouvements de moustache rapides ?
Non, pas précisément. Le système dont vous parlez déclenche plutôt le rire, qui est un mécanisme que nous verrons une autre fois. Le rêve lui-même, lui, se forme au niveau du cortex occipital par l'activité PGO, la réticulée pontique stimule le corps genouillé latéral qui est en rapport avec le cortex visuel où le rêve va se former. Le réticulé pontique est en quelque sorte le metteur en scène du rêve.
Et Carlo Ponti en serait le producteur, je suppose.
Oui, c'est une excellente question, idiote. Et je vous remercie de me l'avoir posée. Malheureusement, le rêve échappe au système de production-distribution, bien qu'on en réalise plusieurs milliards d'heures par jour sur la planète. 1 à 2 heures par adulte, jusqu'à 8 heures pour un bébé et encore plus pour un fœtus.
Si je comprends bien, les ovules et les spermatozoïdes sont de grands rêveurs.
Je me souviens d'un rêve que j'ai fait quand j'étais spermatozoïde. Je gagnais une course. Comme vous voyez, il s'est réalisé.
Moi, j'ai rêvé que je faisais 283e à une course. Comme quoi, vous voyez, tous les rêves de spermatozoïdes ne sont pas prémonitoires. Si je comprends bien, le rêve, c'est pas vraiment le créneau porteur sur le marché de l'image. Alors, ça sert à quoi ?
À beaucoup de choses. Ça sert notamment à traiter les événements stressants de l'état de veille. Ça servirait à acquérir la maîtrise des situations pénibles de l'éveil au moyen des systèmes de mémorisation ayant déjà fourni des solutions satisfaisantes. Libérés des contraintes de l'éveil, les processus associatifs sont beaucoup plus fluides. Le SP joue d'ailleurs un rôle important dans la mémorisation et l'apprentissage. Il nous permet de retenir ce que nous avons appris à l'état de veille.
Moi, je rêve toujours que j'oublie. C'est pour ça que j'ai du mal à apprendre. Et lui, là ? C'est une nouvelle danse branchée à base de râteaux qu'il est en train de mémoriser.
Oh, lui, je le connais. Il fait de l'import-export de râteaux. C'est un Allemand. Je pense que son rêve est plutôt un rêve de compensation.
Oui, évidemment. Ça doit être frustrant de faire ce métier et d'être obligé d'éviter tous ces râteaux à l'état de veille par simple convention sociale.
Justement, le rêve sert aussi à contrebalancer les contraintes de l'environnement en effectuant une reprogrammation génétique perpétuelle de l'inné neurologique de l'espèce.
Bon sang, mais ça y est, j'ai tout compris.
Allons bon, qu'est-ce que vous avez donc tant compris ?
Mais enfin, la seule chose vraiment importante, son ronflement de locomotive. Ça y est, j'ai l'explication. Il décharge tout simplement un train de râteau dans son rêve.
Oui, et alors ? S'il le décharge, le train est arrêté. Je ne vois pas en quoi ça expliquerait le bruit de locomotive. Vraiment n'importe quoi.
Non monsieur, pas n'importe quoi ! D'abord, C'est un Allemand et il est très poli. Alors, il décharge les râteaux très poliment en passant à main à son collègue. Bitte schön, passe-moi un râteau. Danke schön, merci pour le râteau. Bitte schön, danke schön, bitte schön, danke schön, bitte schön. Le voilà. Le voilà le secret du bruit de la locomotive.
Explication en allemand, comme le maître. Bravo. La science n'attendait plus que vous pour inventer la psychanalyse du ronflement.
Oh, vous, vous êtes jaloux. Mais puisque vous êtes si malin, est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, pour voir si l'immeuble dans lequel est entré le ronfleur est en phase de sommeil paradoxal ? On va voir.
Alors là, très mauvaise question, idiote. Vous avez toujours rien compris. Qu'est-ce que j'ai dit à propos de l'érection pénienne, hein ? Comment voulez-vous que cet immeuble soit en sommeil paradoxal ? Vous me copierez 50 fois le théorème. Je bande en dormant, donc je rêve. Pour demain.
Oui, mais vous oubliez le deuxième théorème. Je rêve, donc j'apprends. Donc, le troisième théorème, je bande, donc j'apprends. Alors laissez-moi un peu bander tranquille si vous voulez vraiment qu'une nuit je devienne savant. L'amour a deux temps, l'amour a quatre temps.
Ça y est, voilà que j'ai le melon qui bourgeonne.
Déjà ?
Quoi déjà ? Rien de plus normal. Ça va être la saison des amours, voilà tout.
Encore ?
Quoi encore ? Vous savez bien que tous les ans, il y a un temps pour l'amour.
Toujours ?
Quoi toujours, évidemment. L'amour, toujours. Mais qui connaissez-vous à l'amour ?
L'amour ? Oui, si, je connais. J'ai déjà vu des trucs là-dessus. C'est pas ce truc qu'on fait avec les femmes ?
Bonne remarque. Je vois que vous avez certaines bases en sciences humaines.
Ouais, n'exagérons rien. Je reconnais que j'ai quelques lacunes.
Mais ça peut se combler. Ne voyez-vous pas ? Ne croyez pas que cela me valorise de fréquenter un âne comme vous. J'aurais tout à gagner à vous déniaiser un peu. Ça tombe bien. Voici les grands rassemblements amoureux d'automobiles qui commencent. Nous allons donc étudier l'amour humain comparé à l'amour automobile.
C'est à cause de l'amour qu'elle roule ta cloche-pied.
Bien sûr, c'est une des attitudes caractéristiques de la parade nuptiale. L'amour, donc, c'est d'abord une sensation agréable, déclenchée par une perception plaisante. Chez l'automobile, c'est la rotation fournie par l'arbre moteur à la dynamo. Cette sensation agréable provoque la libération dans le cerveau de phényléthylamine, ou PEA, qui déchargé au niveau du septum chez l'homme ou au niveau de la vis platinée de l'allumeur chez l'automobile, il joue un rôle amphétaminique. Arrêtez de glousser. Les neurones du septum déchargent alors des neurotransmetteurs de la famille des catécholamines, notamment de la noradrénaline qui est transmise aux neurones du cortex. Chez l'automobile, ces impulsions des vis platinées sont transmises aux bougies. Arrêtez de ululer. Le septum déclenche le fonctionnement de l'hypothalamus qui va décharger certaines hormones endorphines qui agissent comme des drogues. L'amour commence là. De même, chez l'automobile, le piston ne gesticule qu'après décharge de la bougie. Qu'est-ce que vous avez à pouffer comme un collégien ?
C'est vachement hard vos histoires de drogue qui déclenchent l'amour. Je vous aurais jamais cru si déluré. C'est du porno BCBG.
Abruti, ces drogues-là sont légales et même nécessaires à la reproduction de l'espèce. Je continue. Le septum, donc, peut être considéré comme la clé du système amoureux ou du plaisir. Et une situation de sevrage d'endorphine après séparation ou adultère ressemble à la situation de manque du drogué. Par contre, la clé de contact automobile est équipée d'un antivol, ce qui la met à l'abri de certaines surprises.
Attendez, ça veut dire que l'automobile serait en avance sur l'humain, sur le plan amoureux tout du moins.
Non, il serait hasardeux de conclure si hâtivement. L'humain, par exemple, dispose de parades amoureuses plus variées, alors que l'automobile a une palette plus restreinte sur le plan strictement cybernétique.
Oui, d'accord. Mais il faut reconnaître que ces trémoussements en créneau sur roue arrière ont quelque chose de salace, auquel il est difficile de rester insensible.
Ah, d'accord. Je vois où se portent vos goûts. Vous ne seriez pas un peu du genre à collectionner les photos de Cadillac comme image cochonne ?
Et vous ? Quand elles montrent leurs dessous, vous détournez pudiquement les yeux, sans doute.
Ouais, bon, passons. Laissons de côté ce terrain scabreux pour la récréation. Et revenons un peu à notre cours. Nous en étions aux avantages comparés de l'équipement amoureux humain et automobile. Ce qui distingue avant tout l'humain, c'est qu'il a la chance de posséder un petit noyau, le locus ceruleus, lui permettant d'être malheureux lors d'une déception amoureuse ou d'un sevrage.
Mince. Ce serait donc ce petit noyau, l'âme humaine ?
Je ne sais pas. J'ai déposé cette question dans le tronc à suggestion de la cathédrale. Mais on ne m'a pas encore répondu. Et toujours est-il que ce locus ceruleus innerve une grande partie du cortex et du diencéphale et y décharge de la noradrénaline. C'est la voie supérieure de la NA. Et à l'inverse du septum, celle-ci procure de la souffrance et de l'angoisse.
C'est bien fait pour les cocus. Moi, ça me chatouille le septum de savoir ça. Je suis bien content.
Et le locus ceruleus gère aussi bien un ensemble de cellules libérant une substance P, qui est un noroleptide modulateur comme les endorphines, mais d'action opposée.
Comme quoi, on est bien peu de choses. Mais moi, j'en ai un peu ma dose de votre théorie et de vos histoires de drogue. J'en ai marre aussi de leur parade amoureuse à celle-là. J'aimerais bien les voir un peu conclure, assez de préliminaires, aux actes.
Vous allez être déçus. Il n'est plus question qu'elles se donnent en spectacle. Nous avons tout de même trouvé une solution satisfaisante à la fois pour la science et la morale. Nous sommes en train d'installer un inséminateur artificiel pour automobile au sommet du clocher de la cathédrale. Ce sera tout de même plus convenable.
Ah, très bien. Je me demandais à quoi allait servir ce boulevard périphérique autour du clocher. Au moins, je ne regrette pas mes impôts. Mais je vais regretter leur galipette aux autos. Fini mes fantasmes.
Bon, si ça ne satisfait pas vos anciens fantasmes, vous n'avez qu'à en fabriquer d'autres.
Impossible. Vous ne m'avez même pas dit quelle glande je dois faire fonctionner.
Les locataires de la terre en loc.
Et ça, là, c'est quoi ? C'est exprès ?
Quoi donc ?
Je parle de ça, là, cette vilaine faille toute fissurée en forme de fente qui se lézarde en faisant un creux. C'est le fruit d'une de vos expériences amusantes ? Quand le proprio a accepté de nous baisser le loyer du balcon en échange d'aménagement, c'était peut-être pas ce genre-là qu'il préconiserait. C'est déjà bien assez pénible d'avoir à partager ce balcon que je vais pas en plus trinquer pour vos conneries.
Ah ça, évidemment. Dès qu'il y a le moindre problème sur ce balcon, il faut que vous fonciez sous les jupes du proprio. Ça fait plaisir. Merci pour la solidarité entre colocataires.
Et là, que les choses soient bien claires, nous ne partageons pas le loyer de ce balcon. Nous en louons chacun une moitié. Je ne suis pas responsable de vos parts et justement, il se trouve que votre faille, elle est venue me grignoter une partie de mes parts dans mon camp. Maintenant, je me retrouve avec seulement 3 balustres et vous 4. Alors, que comptez-vous faire, juridiquement parlant ?
En effet, c'est assez préoccupant. Mais ce qui l'est encore plus, c'est que je crains que cette faille ne soit pas de ma compétence, mais plutôt de celle de la tectonique des plaques.
En clair, ça veut dire que vous vous défilez rapport à mon indemnisation. Je vois que la négociation est un peu mal barrée pour aboutir à une solution amiable.
Non. En clair, ça veut dire que nous sommes sur un rift.
N'essayez pas de m'attendrir avec vos gros mots savants. Moi, j'appelle ça une escroquerie immobilière scandaleuse. Et voilà! D'ailleurs, je ne vois pas en quoi votre rift justifie que vous m'arnaquiez d'un demi-mètre de balcon.
Et voilà, c'est une vieille histoire. Elle remonte à 200 millions d'années, à l'époque de la Pangée. La Pangée était un super continent unique qui remplissait tout un hémisphère. Au-delà s'étendait une mer immense, la Pantalassa.
J'espère que vous avez un document de cette époque dans votre dossier pour prouver ça. Un constat d'huissier ou quelque chose d'un peu sérieux.
Ce continent serait resté bien sagement à sa place et nous en serions restés là s'il n'y avait eu un mouvement de convection sous le manteau.
Des manœuvres sous le manteau ? Nous y voilà ! Le poteau rose en immobilier révèle toujours quelques affaires de pot de vin.
Ces mouvements de convection sont dus à des différences de température du noyau. Le matériau chaud est moins dense et il monte. A l'inverse, pour le matériau froid.
En somme, des mouvements de fond souterrain, c'est ça? Je suppose que ça allait alimenter quelques caisses noires de quelques parties infernales.
La partie descendante correspond d'ailleurs au ronflement équatorial et la partie ascendante au creux polaire. Ces mouvements de convection ont donc établi des pressions au niveau du manteau supérieur.
Il y a eu des pressions en haut lieu? Bien sûr. Forcément. Je sens qu'il y a des têtes haut placées qui vont valser et ne comptez pas sur moi pour écraser cette affaire. Je rapporterai tout au juge d'usage y laisser ma peau.
Ces pressions se sont exercées principalement sous la couverture thermique de la Pangée. La chaleur interne étant beaucoup moins bien dissipée que par l'océan. C'est ainsi que la couche lithosphérique s'est amincie et affaiblie. Elle a fini par se fendre.
Et voilà, mais c'est normal. On accumule les tripotages et les conclusions les plus véreuses. On en rajoute et après on s'étonne que ça pète. Mais maintenant, c'est pas le tout avoué, il va falloir payer.
Des cassures se sont ainsi amorcées en surface, se traduisant par des fossés ou des plateaux d'effondrement, que l'on appelle des rifts. Nous en avons un exemple pas loin d'ici, au boulodrome de la pétanque échassière. Figurez-vous qu'avant l'effondrement, on jouait aux boules à même le sol.
De quoi ? On jouait avec des boules qui avaient été traînées par terre, mais c'est dégoûtant. Décidément, votre histoire n'est vraiment pas propre.
Rassurez-vous, elle est bientôt finie. L'échauffement a alors provoqué une accélération de la convection qui s'est alors découplée de celle du manteau supérieur. Ça a été suffisant pour briser la Pangée le long de ses rifts. Ces fragments sont les continents actuels qui vont à la dérive comme de petits bateaux.
Ah, c'était donc ça. Je comprends enfin pourquoi j'ai un pareil mal de mer. Ça va durer encore longtemps, cette dérive ?
Non, ça devrait se calmer. Le couplage des convections inférieures et supérieures tendrait à rassembler les continents comme avant. Simple question d'économie d'énergie. La Terre est une feignante comme tout le monde et il faut s'attendre à ce qu'une nouvelle Pangée se reforme dans un hémisphère.
Quoi ? Quelle horreur ! Quand les continents vont se recoller, on ne sait même pas sur qui on va tomber comme nouveaux voisins. Déjà qu'on est sûr que ce sera des étrangers, déjà rien que ça, et je parle pas de leur couleur, ni des maladies qui vont nous refiler. J'aime encore mieux sauter tout de suite à la mer.
Allons, allons, ne vous en faites pas, on y a déjà pensé. On a installé un mur spécial en bordure de notre continent. Il est à double usage. Si jamais le continent qui vient se coller, c'est des ennemis, on vire les pots de fleurs et on relève les passerelles. Si c'est des alliés, on mettra des rosiers pour cacher les barbelés. Ce sera très joli. Et les passerelles, ce sera très pratique pour le commerce.
Ouais, je vois. Une sorte de mur de la fausse honte. Sans doute le must des tendances les plus pointues en matière de frontières. Mais moi, j'y crois pas à ces machins-là. C'est toujours des vrais passoires. C'est bien joli, mais... Qu'est-ce que vous avez décidé ? À propos du scandale du balcon. Vous me versez mes dommages et intérêts maintenant ? Ou bien on attaque le procès tout de suite ?
Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Le rift sur lequel nous sommes, maintenant qu'il est ouvert, vous vous retrouvez sur le continent africain. Bon débarras. Et puis bien des choses de ma part aux indigènes de votre nouveau chez vous. Mon gouvernement vous enverra peut-être une petite aide pour vous développer, s'il y pense. Et si vous êtes sage.
Merde, merde, merde ! Me voilà coincé dans le tiers-monde jusqu'à ce que la Pangée se reforme.
le wawa de son papa.
Bon, mais c'est à qui ça? Ces grandes boubouches goulues qui font wawa, mais c'est à qui ça? Oh, mais c'est les boubouches qui font la lèche à leur papa, ça! C'est les boubouches qui font la lèche à la papa de leur papa, ça!
Et que sont donc les délicieux bestiaux qui nous valent que vous vous mettiez à bétifier de si spirituelle façon? À ce propos, faut-il vous rappeler que les chiens sont formellement interdits sur ce balcon?
J'écoute pas mon wawa. Il est un gros vilain, le monsieur du balcon. Et il est un très 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 vilain ogre qui mange les wawa.
Entendez par là que je vous donne 5 minutes pour me faire des guerres pires de ça d'ici. Sinon, j'appelle la fourrière qui va nous piquer tout ça en vitesse. Je prends déjà bien assez de risques à partager votre promiscuité douteuse pour ne pas encore y rajouter la rage.
Vois mon wawa, si les passages, son papa, il le donne à l'ogre du balcon qui va lui faire des misères à mon wawa de son gentil papa.
On peut voir les molosses, les muses bavantes qui nous valent un tel bouquet de rhétorique, que je sache au moins quel genre de monstre va m'inoculer la rage.
Ah, n'approchez pas, vous! Restez sur vos parts! Je tiens à ce qu'on respecte l'intimité de mes invités. Vous allez me les contaminer avec votre haleine pleine de germes.
Trop tard, je l'ai vu. J'ai vu le monstre. Très intéressant du reste. C'est une Dionea muscipula.
Non, c'est mon wawa. Et vous, surveillez un peu vos gros mots. Je l'ai dressé à l'attaque.
Est-ce que vous saviez que cette chose à qui vous parlez comme un gros toutou, c'est une plante carnivore?
Oui, et alors? D'abord, vous n'y connaissez rien au langage des fleurs.
Oui, justement. Ce qui est carnivore, ce n'est pas la fleur, mais la feuille. Et ça ne se fait guère de parler comme vous faites à des feuilles.
Et alors, et peut-être que ça se fait beaucoup d'être carnivore de la feuille? Et pourquoi cette fantaisie d'abord?
Les plantes carnivores compensent les carences nutritives du milieu par un complément en matière carnée que leur fournissent leurs pièges. Comme le piège à loup à ressort de votre Dionée.
Ah ouais? Sans blague, des loups. Vous pourrez leur dire aux loups qui voudraient se faire piéger sur mon bout de balcon qu'ici, il y a un patron et c'est moi. Hein, mon pauvre wawa?
Non, ce sont plutôt des insectes qui vont lui fournir des protéines qu'elle transformera ensuite en azote assimilable. Ce qui lui permettra d'occuper des niches écologiques pauvres en nitrates qui leur seraient hostiles sans cet apport. Et où n'existe plus de concurrence.
Vous êtes pas gonflé, vous, alors? Vous insinuez carrément que ce balcon est une niche? Parlez pour votre côté. Quand on voit comme ça renifle dans votre camp, il n'y a pas un chien qui oserait y lever la patte tellement ça schlingue.
Non, ce n'est pas ça, une niche écologique. C'est un endroit aux conditions bien particulières. Prenez par exemple le pont kangourou. Sa façon très personnelle de travailler, de traverser la rivière crée un microclimat au niveau de sa poche kangourou. Ce qui fait qu'on y trouve des espèces très rares et adaptées. C'est ça, une niche écologique.
Oui, oui, j'ai compris. Mais ce que je pige pas, c'est comment ces feuilles peuvent-elles manger leur viande? On ne les voit même pas mâcher avec leurs grandes dents.
Bah, il y a d'autres systèmes de capture. Les Drosera, par exemple, utilisent des tentacules adhésifs. Les Nepenthes, eux, attirent les insectes par leur nectar dans une sorte d'urne ou acidie aux parois glissantes et dans lesquelles ils vont tomber. Cette urne contient les enzymes qui vont digérer l'insecte. Des champignons, les arthrobotrices, utilisent carrément des collets pour attraper des petits vers. Quant aux utriculaires, qui sont des carnivores aquatiques, elles ont des outres à faible pression qui fonctionnent comme des poires en caoutchouc. Quand la valve s'ouvre au contact d'une proie vivante sur ses poils, d'une petite succion et hop, c'est gobé. Tout ça en 1/35 de seconde, ce qui est une performance très honorable pour des feuilles. Elles sont parmi les feuilles les plus rapides en chasse sous-marine.
Et tout ça sans permis de pêche ni de chasse, évidemment. Moi, je te collerais des papillons bien salés à toutes ces feuilles qui braconnent. Ils n'auraient pas fini de peser sur l'estomac. Mais ça ne me dit toujours pas comment ils mangent mon wawa de son papa.
C'est peut-être encore dans ce domaine-là qu'elles se montrent les plus originales.
C'est pas trop tôt parce que attraper des mouches, moi j'en faisais autant.
En effet, il n'y a pas d'ingestion comme chez l'animal, la digestion se fait par contact. Le contact direct de l'insecte vivant déclenche la production d'enzymes protéases. Elles vont dissoudre la matière carnée de la proie et se charger des aminoacides libérés. Ça se passe à la surface des lobes. Ce qui est tout à fait original, c'est que le liquide de digestion dans lequel s'est dissoute la proie, et qui se trouve donc enrichi en protéines, va retraverser l'enveloppe cellulaire des lobes. Et ensuite, à l'intérieur de la plante, ces protéines seront transformées en azote.
Bon, c'est ça qui est original, vous m'en direz tant.
Oui, ça veut dire que c'est une digestion de contact, tout à fait extérieure. Un peu comme si nous, on digérait nos steaks en se les plaçant en travers de la figure, ou en se les collant sous les bras. Ou ailleurs, si vous préférez.
Ah oui, en effet, c'est fort. Moi, j'ai beau avoir de la séborrhée dans les cheveux que ça en est une véritable calamité, eh ben, je suis toujours pas arrivé à digérer ma casquette. Très bien, cette fois, je crois que j'ai à peu près tout compris, notamment qu'il ne fallait pas traiter mon Wawa comme un chien. Mais maintenant aussi, je me fais un souci. Je crains que ça lui convienne plus, notre balcon comme niche écologique. Il risque de prendre de mauvaises habitudes alimentaires.
Vous n'avez qu'à le placer dans une niche plus convenable jusqu'à sa majorité.
Ah oui. Moi aussi j'y ai pensé. J'ai repéré un endroit au séminaire de rock'n'roll. C'est tenu par des Hells Jésuites et ça a l'air sérieux. Vous ne pensez pas que sur la terrasse banane ça pourrait faire une niche écologique convenable pour une fleur carnivore de bonne famille?
Une fleur carnivore? Vous n'avez toujours rien compris. C'est pas la peine de se crever la paillasse à prêcher dans le désert. Je vous rabâche que ce qui est carnivore, ce n'est pas les fleurs, mais les feuilles.
Oh, si vous me prenez pour un con, dites-le carrément. Encore une réflexion comme ça, et gare aux fesses. Le Mickeypithèque.
Oh, belle application. Et quelles sont donc les studieuses lectures qui vous absorbent avec une si touchante assiduité?
Chut, silence. Rien. C'est un traité de paléontologie des invertébrés. Un peu didactique, mais c'est pas mal. Ça m'intéresse. Parce que c'est intéressant.
Je ne parle pas de celui-là. Je parle du Mickey qui est caché en dessous.
Si vous le saviez, pourquoi est-ce que vous me le demandez? J'aime pas beaucoup qu'on m'espionne.
Parce que si c'est comme ça que vous potassez votre brevet professionnel de héros de BD scientifique, ne comptez pas sur mon piston pour vous faire repêcher.
Je révise les vieux Mickey. Ça a bien un rapport avec la paléontologie des invertébrés. Je risque d'avoir une question là-dessus, je ne peux pas faire l'impasse.
Vous y avez pensé à votre pauvre mère, si elle vous voyait bouquiner des âneries de Mickey au lieu de réviser sérieusement votre brevet? Et à la collectivité qui se ruine pour vous en bourse, pour que vous alliez les gaspiller en cochonneries illustrées?
Erreur. Celui-là, je l'ai emprunté à la bibliothèque municipale de prêt. Il prête de très vieux bouquins.
Ah ouais, je vois. Si les bibliothèques municipales s'y mettent, il ne me reste donc plus qu'à essayer de concilier le poids de votre culture avec les normes de sécurité du balcon et avec Mickey. Mais après tout, pourquoi pas? Puisque vous tenez absolument à étudier les mécanismes de l'évolution à partir des vieux Mickey, on peut toujours essayer de voir ça ensemble.
Ah bon? Parce qu'il y a vraiment un rapport.
Ah, pour commencer, avez-vous déjà visité le Muséum d'Histoire Naturelle du Mickey?
Ouais, j'y ai même travaillé un mois comme gardien. Mais je me suis fait virer à la suite d'une sombre affaire de vol d'oreilles de Mickey au formol commis par des voyous. Mais ils n'ont pas eu ma chaise. Regardez, je l'ai toujours.
Vous vous souvenez donc de la grande salle où sont présentés les Mickey naturalisés depuis leur apparition jusqu'à nos jours?
Oui, très bien, c'est là où je dormais.
Cette présentation permet de suivre son parcours ontogénique. ou si vous préférez, son évolution morphologique au cours de sa croissance. Je me suis livré à un petit calcul à l'aide de mon compas à calibrer. Entre le Mickey du début des années 30 et le Mickey actuel, la taille de l'œil a augmenté régulièrement et est passée de 25% à 42% de la longueur de la tête. La longueur de la tête, de 42,7% à 48% de la longueur du corps. Et la distance nez-oreille antérieure, de 71,7% à 95,6% de la distance nez-oreille postérieure. Ces chiffres sont éloquents, non? Qu'est-ce que nous pouvons en déduire selon vous?
Eh ben, supposez que vous arriviez à en déduire les variations de pression à appliquer aux oreilles suivant l'état de la route. La sécurité routière vous en sera, je crois, éternellement reconnaissante. Et je pense que ce joli succès vous ouvrira les portes d'une immense carrière dans l'exégèse bédéphile. Vous parlerez alors de mon nez et je serai enfin très riche et très célèbre.
Mais comptez-y. Quand je serai exégète bédéphile, je ne parlerai que de mon nez. Et je vous moucherai le vôtre par des pamphlets d'une violence inouïe. Vous voilà prévenu. Non, voilà ce qui s'est passé. La tête a grossi par rapport au corps, les yeux par rapport à la tête, le front s'est bombé et agrandi par le transfert des oreilles vers l'arrière, le nez s'est retroussé, les jambes et les bras ont rétréci et se sont potelés. Tous ces signes sont des caractéristiques juvéniles. Mickey, en vieillissant, a rajeuni. Pourquoi ? C'est évidemment un problème d'étude de marché. Quelles caractéristiques abstraites attirent la sympathie du public ? Conrad Lorenz pense que des traits et caractères juvéniles entraînent chez les adultes humains des mécanismes innés de déclenchement d'affection.
Bof, au muséum, il y avait la galerie des ancêtres. Moi, mon chouchou, c'était l'arrière-arrière-grand-père.
Ce rajeunissement en tant que phénomène de l'évolution s'appelle la néoténie. Ces déclencheurs néoténiques ont une qualité abstraite et nous étendons notre capacité de réaction à d'autres animaux. Nous sommes attirés par les animaux au caractère néoténique, alors que nous éprouvons souvent de l'aversion pour d'autres ne présentant pas ces caractères. Petits yeux, long museau, front fuyant, etc. Cette capacité de réaction biologiquement déplacée s'étend également aux objets inanimés les plus inattendus, qui se connotent ainsi de valeurs sentimentales et affectives. Quel rapport cela a-t-il avec l'évolution humaine? Le crâne de l'embryon humain diffère peu de celui des chimpanzés. Puis, au cours de la croissance postnatale, les caractéristiques néoténiques s'atténuent par un accroissement de la mâchoire et une diminution relative de la voûte crânienne. Mais beaucoup moins chez l'homme que chez les autres primates. Et si nous comparons nos traits actuels avec ceux de notre aïeul australopithèque, nous avons acquis des caractères néoténiques. Nous avons rajeuni. C'est-à-dire qu'à l'âge adulte, nous conservons des caractères de la jeunesse. Nous avons suivi exactement la même évolution néoténique que Mickey.
C'est vrai, la preuve. Moi, avec mon petit nez en trompette, mon front haut et bombé, mes grands yeux de biche, on me prendrait quasiment pour une poupée. J'attends d'ailleurs des propositions de contrat des marchands de latex et celluloïdes. Je pense que ça va marcher très fort pour moi. Encore une dernière question. Est-ce que l'arc de triomphe à la couche, on peut dire que c'est un monument de l'art néoténique?
Non, ni néo-gothique non plus. Vous n'avez toujours rien compris. La couche ne peut pas être considérée comme un caractère néoténique, au sens strictement biologique.
Anticos contre Classicos. Par ici les tomates. Qui veut de la tomate? C'est pour qui les tomates? Pas belle, très 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 chère.
Hey, qu'est-ce que c'est encore que cette nouveauté de brailler? Tomate, tomate, pendant que je me concentre.
Vous, le Balconus sapiens qui encense les pauvres gens de sa sapience, silence. Laissez un peu bosser les honnêtes gens. Parce que, si c'est pour me sortir encore une théorie sur le concentré de tomate, moi j'ai du boulot. Le commerce, c'est pas comme vos spéculations, c'est du pragmatisme taillé dans la sueur du laboureur.
Ah, ça alors ? Ça serait-il que vous seriez enfin décidé à travailler ? Bah, bravo ! Et comme Marjane de 4 saisons, ça c'est un bon choix. Vous avez bien fait d'abandonner ce projet idiot de devenir héros de BD scientifique.
L'héroïsme n'est pas incompatible avec la tomate.
J'émettrai seulement une petite réserve quant au choix du pas de porte. Ce balcon au premier étage, c'est peut-être bien une petite maladresse de marketing. Mais foin de ces dénigrements faciles, l'heure est à l'encouragement de l'initiative privée. Encore une fois, bravo!
Quand mes tomates auront besoin d'une leçon particulière d'économie, je choisirai moi-même leur précepteur. Maintenant, arrêtez de perturber mon business. Qui veut de la tomate pourrie?
Je ne veux pas m'immiscer dans votre carrière, mais la réussite d'une entreprise tient souvent à ce genre de petits détails de marketing.
Qui veut de mes tomates dégueulasses à un prix exorbitant?
Moi, je veux bien. Ça a l'air intéressant. C'est une promotion.
Oui, madame. Je lui en mets une de bien dégueulasse à la petite dame.
Oui, mettez-moi surtout une bien dégueulasse. Mais j'aimerais bien la voler si ça ne vous dérange pas trop.
Mais comment donc? Choisissez la plus dégueulasse, ça ne me dérange pas du tout.
Eh bien, j'aime bien celle-là. Hop! Alors comme ça, ce n'est pas le beau temps. Hein. Enfin, quoi y faire?
Aimez. Oh! Aimez, vous avez vu ça? Elle m'a volé une tomate! Elle m'a volé une tomate dans une cagette! Et il y en a une autre qui s'est envolée d'une autre cagette, exactement de la même façon. Regardez, elle fait exactement les mêmes mouvements que la première. On dirait qu'elle descend dans un estomac. Notre cher chercheur sur sa chaise chérie aura bien quelque explication à ce tour de magie. Ce coup monté ressemble bien à un coup de girafe, non?
Pas du tout. Votre échalas en opus incertum n'a rien à voir là-dedans. Vous venez en réalité de faire une expérience prouvant une des prévisions de la mécanique quantique, la non-séparabilité.
Qu'est-ce que vous me chantez là, avec vos quantiques mécaniques? Je comprends rien à votre charabia.
Et voilà. Pour la physique classique, le monde est constitué d'objets séparables, dont on peut décrire la position et le comportement avec précision. C'est vrai dans l'écrasante majorité des cas, mais ce n'est qu'une approximation. La théorie quantique, qui s'occupe des phénomènes physiques à l'échelle de l'atome, n'est pas d'accord là-dessus. Pour elle, il peut y avoir corrélation spontanée entre deux événements, même s'ils se produisent à des milliards de kilomètres de distance. Contrairement à la physique classique, qui est déterministe, la physique quantique est pragmatique et statistique. Et seule la mesure la détermine. Si on prenait par exemple deux protons d'un même noyau et qu'on en fasse partir un, mettons, vers New York et l'autre vers Moscou, dans ces villes, on mesure leur spin, ou moment cinétique. On sait qu'étant corrélés, ces protons auront l'un un spin négatif, l'autre positif. Tant qu'on n'a pas mesuré, on ne sait rien de leur spin. Si on mesure, par exemple, celui de New York comme positif, on sait que celui de Moscou sera négatif, et vice-versa. Jusque-là, les physiciens classiques et les politologues sont d'accord. Mais là où ça devient plus drôle, c'est que si au dernier moment on changeait la valeur d'un de ces spins, aussitôt l'autre prendrait la valeur inverse. Quelle que soit la distance, fût-elle en milliards de kilomètres, et à une vitesse supérieure à celle de la lumière. C'est ce qu'on appelle la non-séparabilité.
Vous savez, c'est pas à moi que vous allez en apprendre, la non-séparabilité. J'ai déjà été marié deux fois. La première est partie avec un Esquimau, la deuxième avec un cosmonaute. Et bien les deux fois, malgré la distance, je me suis retrouvé cocu à une vitesse supérieure à celle de la lumière. C'est bien ça que vous appelez la corrélation spontanée et la non-séparabilité.
Exactement. Votre vie conjugale a été quantique et non classique. On a mis cette propriété en évidence avec des photons provenant d'un même atome, comme vos tomates provenant d'un même pied, et émis dans des directions opposées. Puis, à l'aide d'un commutateur optique, on fait varier la direction d'un des photons. Or, cette action se répercute aussitôt sur son jumeau à une vitesse supérieure à la lumière. La mécanique quantique associe ces deux particules corrélées à une seule fonction d'onde globale. C'est pourquoi elles sont non séparables. Cette communication supraluminale entre deux particules ne pouvait pas être admise par la théorie de la relativité. Ce fut un des fondements du débat historique Bohr-Einstein. Einstein avait une opinion de la réalité très déterministe et réaliste. Il estimait que la théorie quantique était incomplète. Ainsi supposait-il l'existence de variables cachées et inconnues de nous.
mais ce comportement de façon classique. C'est-à-dire que la réalité existerait indépendamment de la mesure et de l'observateur. Or, ce réalisme-là ne correspond pas à la réalité. Cette expérience sur les photons, de même que votre vérification sur les tomates, viole l'inégalité de Bell et dément l'hypothèse des variables cachées. Et exactement comme le prévoyaient Niels Bohr et la théorie quantique.
Ça ne vous fait rien si j'interromps un instant votre envolée, mais j'aimerais moi aussi faire une petite remarque à propos de ces variables cachées. Une remarque directement issue de mon expérimentation, comme nous l'enseigne la mécanique quantique. Voilà. Voilà, ce matin, pour mon business de tomates, je suis allé, comme tout bon citoyen, demander ma patente au bureau des hautes affaires du cache-cache. J'ai fait 50 fois le tour des bureaux et j'ai trouvé personne. Absolument personne. Alors, selon vous, soit ces bureaux, comme le prévoient Niels Bohr et la théorie quantique, n'existent pas, car ils sont inséparables de mon désir de vendre mes tomates sans patente, et il est alors normal que j'y rencontre personne. Soit, selon Einstein, ils existent en dehors de moi, ce sont des variables cachées. Et c'est alors encore plus étonnant, car ils feraient sacrément bien leur boulot pour une administration, fût-elle du cache-cache.
Je peux.
Tenez.
Merci.
Alors, qui a raison ? Quanticos ou Classicos ?
Bof. Avec ou sans patente, peu importe. Elles ne sont pas si pourries que ça, vos tomates.
Tiens. Celle-là n'était pas corrélée avec une collègue. C'était une tomate Classicos.
Merci d'avoir écouté les deux du balcon de Masse. On a fait 7 épisodes sur 10. À noter que la bande son, c'était un groupe électro du début des années 2000 qui s'appelle Aden to X, de leur album Avant Hard.
La semaine prochaine, vous retrouverez Tiffen Bissuel et son équipe pour la lecture de Je suis une créature émotionnelle de Eve Ensler. À la semaine prochaine, au Théâtre de la Gamelle.
Salut.
Son chat.
Amateur, propagande.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, snobble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue, il est capable de tout faire.
Imiter son silence.